Donc on va passer du sud de l'Espagne au sud de la France, avec une espèce qui joue pas du tout au golf cette fois-là, le cricket crow. Et on va essayer d'aborder, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais d'aborder cette question de est-ce que la réintroduction peut être un cadre, alors j'ai appelé ça un peu autrement, d'une gestion adaptative d'un territoire. Alors pour commencer la présentation et vous rappeler des choses que vous savez déjà sûrement, il faut appeler ici aussi. Quand on regarde les introductions faites par l'homme sur le globe, donc ça c'est un travail issu d'une publication de 2017, on se rend compte que sur à peu près tous les continents, à l'exception de certains évidemment, aux deux extrêmes, les introductions ont lieu. Il y a très peu de zones épargnées. Alors bon, vous ne voyez pas tous les détails de la carte, mais bon, c'était juste pour illustrer le fait que c'est un phénomène vraiment planétaire, ces introductions. Et on pourrait se poser la question de se dire, bon, ben, réintroduire, c'est peut-être pas si difficile que ça, puisque quand on introduit sans le vouloir, ça marche assez bien. Et puis, quand on regarde au sein des publications de l'UICN, donc on en a parlé un petit peu hier de ce groupe réintroduction, qui est donc a changé de nom, ce groupe de translocation pour la réintroduction, pardon, pour la conservation. Quand on regarde, ah, faut que j'appuie ici aussi. Quand on regarde le succès de ces opérations, ben on se rend compte qu'il est assez faible, hein. On a seulement 20% d'opérations de réintroduction avec un succès certain. Puis quand on zoome encore un peu, on se rend compte que ces programmes de réintroduction concernent majoritairement des vertébrés et beaucoup moins les vertébrés, qui ne représentent que 7% de ces programmes de réintroduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un invertébré, le criquet de Croc, Prionotropis rodanica, que vous voyez ici en photo. Qui est donc présent dans la réserve naturelle des Coussous de Croc, donc qui se situe dans le sud de la France, et c'est l'ancien delta de la Durance. Donc on a beaucoup de balles de golf au sol, beaucoup de galets charriés par la Durance. C'est une zone donc, qui est en partie protégée par par le réseau, qui fait partie du réseau Natura 2000, pardon, et qui est en partie protégée par une réserve naturelle, la réserve naturelle des Coussous de Croc, donc co-gérée par le SNPACA et la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Et la plaine de Croc, ben vous le savez sûrement, est pâturée de façon transhumante entre février-mars et juin par environ 40 000 moutons chaque année. Donc une zone agricole et pastorale importante. Donc ce criquet de Croc, ben à l'image de ce que vous voyez ici, est assez gros. Il fait 5 cm de long, un bon centimètre de large. Vous le voyez aussi sur la photo, il est aptère, hein, des ailes très réduites. Donc des capacités de déplacement assez limitées. Et c'est une espèce qui a été évaluée en 2012 et qui a été revue depuis, mais toujours sur un statut, enfin il est en danger critique, donc un statut fort, fortement menacé, un risque d'extinction notable, qui confère donc à la réserve naturelle et aux deux co-gestionnaires une responsabilité assez forte par rapport à cette espèce. Et donc face à ce constat, on a décidé en 2015 d'établir une stratégie de conservation pour ce criquet sous l'égide de l'UICN. Hein, donc on a créé un groupe de travail avec certains experts, universitaires, acteurs du territoire aussi, et personnels de l'UICN de différents groupes pour établir voilà, une stratégie de conservation. C'est un plan d'action pour améliorer le statut de conservation de l'espèce et envisager, pourquoi pas, la réintroduction. Ou en tout cas, donc la réintroduction sur les sites, réintroduction locale sur les sites où il a localement disparu. Le schéma que vous voyez ici, pardon, ici, c'est bien ça, résume un petit peu l'organisation de cette stratégie. Donc on a un pôle, on va dire, recherche, je m'excuse, j'ai laissé en anglais, mais bon, vous comprenez tous, qui va s'attacher par exemple, à étudier la distribution de la population, mais aussi à faire l'analyse des menaces qui pèsent sur l'espèce, pourquoi l'espèce disparaît. Puis on a un volet gestion qui va s'attacher à mettre en place la gestion, en tout cas des expérimentations de gestion de l'habitat, mais aussi la sauvegarde de l'espèce, et je vais y revenir après. Tout ça pour essayer d'aller vers plus de connaissances pour une conservation qu'on espère plus efficace et efficiente. Donc je vais m'attacher aujourd'hui pour ce colloque à vous parler un petit peu plus de ces aspects sauvegarde de l'espèce, cette relation in situ ex situ, et puis je reviendrai aussi sur deux aspects un peu plus loin. Donc un des objectifs de la sauvegarde de l'espèce était de créer et puis de gérer une population captive ex situ pour soustraire les individus aux menaces qui pèsent sur l'espèce. En parallèle, des études sont menées pour identifier ces menaces. Et donc le cycle, hein, ça correspond au cycle de vie de l'espèce qui a été élaboré, choisi suite à quelques années d'expérience, donc va comporter à la fois des actions ex situ, hein, en laboratoire, au zoo, par exemple, et in situ sur la réserve naturelle des Cousseaux de Croc. Donc les quatre principales actions que vous voyez ici de cet élevage, donc l'élevage d'individus issus sauvages, hein, issus de la nature, de la réserve naturelle. Le transport ex situ en laboratoire pour produire un maximum de pontes qui sont ensuite transférées de retour en crocs, donc ce que vous voyez ici en vert, la partie in situ, pour espérer avoir des éclosions, boucler le cycle et ainsi pouvoir maintenir une population captive soustraite aux menaces qui pèsent en crocs. Alors je vais détailler un petit peu chacun de ces points. Donc si on regarde dans un premier temps l'élevage des individus ex situ, donc d'individus juvéniles, vous le voyez ici, on capture entre 22 et 26 juviniles sauvages chaque année, donc qu'on transportait aux zoos de Thoiry. L'élevage là-bas était pris en charge par Cathy Gibault, l'ex-vétérinaire du zoo de Thoiry, puisque le zoo de Thoiry, l'année dernière, a décidé de ne plus participer à cette opération de façon un peu rapide et sans préavis. Donc Cathy Gibault continue de son côté, puisque c'est elle qui a la capacité à l'élevage depuis. Vous voyez les photos ici, un élevage d'invertébrés, d'orthoptères assez classique, où on essaye malgré tout de mimer les conditions naturelles. Hein, on avait pris soin de collecter des informations sur la température, l'humidité, sur l'habitat du criquet et de mimer ces conditions en laboratoire. Donc on a une plutôt bonne probabilité de survie des individus juvéniles tout au long de leur développement en laboratoire, puisque voilà, on est en moyenne à 86% de survie, même si c'est assez variable, hein, on est entre 75 et 100%. On a certaines années, particulièrement les deux dernières, j'y reviendrai, où on peut avoir des petits accidents de mortalité. Si on regarde maintenant l'étape suivante, toujours ex situ, la production de pontes. Donc vous voyez sur la photo en haut à droite, les petites boîtes qui servent à collecter les zootechs. Et donc on arrive à avoir en moyenne chaque année 170 pontes produites donc par an, ce qui correspond à 11 à 13 pontes par femelle. Et on estime dans la nature, ce qui est quelque chose de pas facile à mesurer, que les femelles font plutôt 4 à 5 pontes. Donc en les soustrayant aux aléas du milieu naturel, dont la prédation, bon, on arrive à maximiser, enfin à optimiser, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire ça, mais à avoir un nombre de pontes en tout cas supérieur. Et donc on a fait et on continue de faire des dissections pour en apprendre un petit peu sur le développement des œufs, des embryons, particulièrement dans ces zoothèques. Et donc on a en moyenne 17,5 œufs. Par ponte, ce qui représente un potentiel assez grand, malgré tout, en embryon, hein, à peu près 2500 embryons potentiels. Donc maintenant, la question va être de savoir est-ce qu'on a des éclosions. Mais avant les éclosions, évidemment, on doit d'abord transférer ces pontes donc de retour en crocs, in situ. Donc c'est ce qu'on fait dans des volières pour soustraire ces pontes à une prédation aviaire éventuelle. Pour éviter également que des individus de la même espèce rentrent à l'intérieur, hein, puisqu'on veut évidemment contrôler, pouvoir mesurer les taux d'éclosion, les taux de mortalité, par exemple, et donc pouvoir maîtriser tout ça. Donc on a plusieurs dispositifs, modalités de transfert en crocs, la façon de planter, parce que c'est vraiment ça, les pontes dans le sol, on essaye de faire du mieux possible pour mimer ce que font les femelles criquets. Donc on avait pris soin de filmer des femelles en train de pondre, mais vous verrez après que c'est pas si facile que ça. Et donc jusqu'à présent, depuis 2015, donc le début de la stratégie de conservation, on a transféré 290 pontes, donc entre 30 et 78 par an selon les différentes modalités que nous avions choisies. Et donc si on regarde ce qui se passe au niveau des éclosions dans ces volières, Donc une première chose qu'on avait appris, ce qui nous a aussi amené à ne faire, à boucler ce cycle uniquement comme ça, avec le transfert en CRO, c'est que à Thoiry, ou en tout cas au laboratoire, le développement des embryons était stoppé à 20-30% de développement. On n'arrivait pas à aller plus loin, malgré le fait qu'on mimait les conditions, en tout cas de température et d'humidité du terrain. Par contre, quand on dissèque des zootechs à la même période sur des pontes transférées en CRO, on s'est rendu compte que le développement était beaucoup plus avancé, donc de l'ordre de 80-95%. Et c'est ce qui nous a décidé à n'effectuer maintenant plus que des transferts de pontes. Donc voilà le résumé un petit peu de ces éclosions, c'est qu'on n'a pas réussi pour l'instant à boucler le cycle totalement en captivité, on n'a aucune éclosion ex situ. On a malgré tout une étape un peu intermédiaire où on a eu une cinquantaine d'éclosions provoquées. Hein, quand on fait les dissections de pontes, on garde des œufs dans des tubes et ces œufs peuvent éclore. Malheureusement, la survie n'est pas terrible. En fait, les individus n'ont jamais jusqu'à l'âge adulte. On a des éclosions, mais le taux d'éclosion varie entre 0 et 40% chaque année. Et on a une survie du premier stade juvénile qui varie aussi beaucoup, entre 0 et 50%. Donc vous voyez que c'est pas encore gagné. On arrive certaines années à boucler le cycle en jouant sur l'échange ex situ in situ. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de réelle population totalement captive et soustraite aux contraintes du milieu naturel. Voilà, vous l'avez déjà compris, au fil de ce que je vous ai dit, des difficultés apparaissent, évidemment. La première, j'en ai déjà un peu parlé, c'est d'identifier puis de mimer en laboratoire les conditions in situ, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire réellement. L'implantation des pontes, la manière dont on va disposer ces pontes sur le terrain, même si on s'attache à faire comme font les femelles, c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus, puisqu'on a eu une année où on a eu très très peu d'éclosions. Donc sur ce protocole expérimental, alors qu'il y avait des éclosions comme les autres années in natura. Donc on est moins fort que les femelles pour planter nos œufs. Et lorsqu'il y a des éclosions, ce n'est pas non plus si évident que ça de détecter les juvéniles sur le terrain. Ça, on l'a appris aussi. Il faut vraiment s'attacher à mettre en place un dispositif particulier où on peut contrôler beaucoup de choses pour être sûr qu'il y a eu des éclosions et, si possible, mesurer les taux de mortalité. Et puis, plus récemment, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une survie des individus juvéniles jusqu'au stade adulte qui pouvait varier. Et donc, on a eu deux accidents ces deux dernières années dans l'élevage. Dans un premier temps, ça a été l'apparition d'un iridovirus, l'iridovirus CR4, qui est connu un petit peu dans la littérature. Alors peut-être que les vétérinaires connaissent encore mieux ça, mais on n'en sait pas beaucoup en fait sur cet iridovirus. On a pu attester de la présence de l'iridovirus sur nos criquets morts. L'histopathologie, ce n'est pas quelque chose d'évident à faire quand on est loin d'un laboratoire pour être sûr des causes de la mort. Mais on a des indications dans ce sens. Il y a certains individus où ça a été le cas. Et puis cette année, on a eu un problème avec des nématodes qui, eux, ont vraiment infesté certains individus, pas tous, mais certains, y compris des adultes. Et ça, c'est probablement venu de la nourriture qu'on a donnée aux criquets qui venaient de prairies, de fauches en CRO locales, mais qui, malgré tout, c'est a priori une nourriture trop humide. Les nématodes sont présents et peuvent infester les individus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va abandonner, on va leur donner que du sec. Donc voilà pour ce volet élevage en captivité et cet échange entre des opérations ex situ et in situ. Pardon. Donc je reviens un petit peu sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur la stratégie pour aller un peu plus loin, pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que, quand on vise une réintroduction, ça peut être un cadre pour aller vers une gestion adaptative de tout un territoire. Donc là, je vous ai parlé de cet aspect élevage. Juste quelques mots sur la partie gestion de l'habitat et la partie analyse des menaces dans le volet recherche, parce que c'est important. Donc les résultats principaux qu'on a obtenus, qui sont en partie publiés ou d'autres en cours de publication, tout d'abord sur la structure de l'habitat. On s'est rendu compte qu'en comparant des sites où l'espèce avait été localement éteinte récemment, et des sites où elle est toujours présente, que la structure de la végétation, donc principalement le recouvrement de la végétation et la hauteur de végétation, était complètement différente. Et on s'est rendu compte aussi, en étudiant un noyau en particulier et sa génétique, la densité de population aussi, et la biomasse, qu'il y avait un effet de la biomasse végétale sur le flux génétique et les densités en orthoptère, enfin en criquet de croc particulièrement. Donc on voit déjà qu'ici, la structure de l'habitat a un rôle important, c'est assez bien connu malgré tout chez les orthoptères, hein, c'est pas une découverte phénoménale, mais c'est aussi le cas pour le criquet de croc, et ce qui change, enfin, ce qui fait qu'en croc, la structure de l'habitat change beaucoup, c'est le pâturage. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est un impact direct du pâturage ou un impact plus indirect au travers de la prédation aviaire, hein, des oiseaux, du cortège d'oiseaux qui suit les troupeaux. Donc on a mis en place une expérimentation là-dessus, et on s'est rendu compte qu'effectivement, le héron garde-bœuf et certains corvidés, amenaient une pression de prédation supplémentaire sur le criquet de croc, d'autant plus lorsque la structure de l'habitat se retrouve plus rase et parsemée. Probablement que le succès de capture est meilleur. Et donc face à ça, on a décidé de tester une gestion de l'habitat sur un site en particulier, au travers d'un exclos d'une dizaine d'hectares qu'on a posé sur un exclos temporaire pendant la période de pâturage, sur un noyau. Et on a donc de cette façon soustrait la zone au pâturage, mais aussi on a écarté cette prédation aviaire potentielle. Enfin, elle n'est pas potentielle, on l'a montré, donc elle est réelle. Et on a suivi cette expérimentation avec la méthode de recapture sur plusieurs années, en prenant soin d'avoir un site témoin aussi pour comparer ce qui se passait. Et on a plutôt de bons résultats puisque la population a triplé, plus que triplé même en 4 ans. Donc on voit ici qu'on a un impact du pâturage. On a ce volet élevage in situ, ex situ, et malgré tout aussi au niveau plus large du territoire, la nécessité de s'attacher à travailler avec les acteurs locaux, que sont les éleveurs. Donc si je reviens un petit peu à la question initiale, donc oui, la réintroduction dans le cas du criquet de croc est envisageable, évidemment, si on arrive à avoir un meilleur succès d'éclosion. Mais ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est l'adaptation aux pratiques pastorales, mais aussi des pratiques pastorales. Donc, un jeu d'acteurs, c'est plutôt une collaboration entre éleveurs et gestionnaires pour au moins localement pouvoir permettre ces réintroductions en agissant sur les modalités, les pratiques pastorales. Et c'est à notre avis, que dans ce cas-là, qu'une gestion adaptative globale du territoire pourra être possible en faveur du criquet de croc, qui est un peu le porte-drapeau de ce qui se passe sur ce territoire, la réserve naturelle, mais pas que. Et donc pour terminer, alors j'espère que ça va marcher, je voulais vous montrer une vidéo, donc un film d'animation qu'on a fait, alors je sais pas, je peux pas le lancer d'ici, je pense.
Je pense que c'est de là-haut.
Voilà, c'est parti. Ouais. Voilà, pour sensibiliser les acteurs du territoire. Donc il y a pas le son, mais il est en anglais, il y a une musique aussi normalement. Il est sous-titré en français, il est destiné à un public assez large, international.
Under the same blue sky and scorching summer sun. Here, there are many stones. So many, but not that alone. Look, yes, right here. In the beginning, there is an egg. It will spend 10 months at the heart of the steppe, nestled amongst other eggs from its pod. About the size of a grain of rice, the egg will give birth to a miniature grasshopper, the nymph. It molts 5 times before becoming a fully fledged adult. The adult grasshopper lives for about 1 month, that is, if it's not swallowed first. It has 6 legs, like all insects, and its wings are aligned in extension to its body, as on other orthopterans. Look at these magnificent hind legs, long and tapered. Aren't they perfect for bounding across mountains or stridulating until nightfall? That's what most grasshoppers do, at least. But not the cold plain grasshopper. This one, it's an original. First off, our grasshopper only lives here, on this very steppe, and nowhere else on Earth. Though it may be one of the largest grasshoppers in Europe, it mostly remains elusive. This animal hardly ever stridulates. It can bear torrid temperatures without flinching, and its jump is, how to put it, rather clumsy. The fault lies in its atrophied wings and its weight, which is beyond average. Are you thinking this makes it vulnerable? You'd be right. But its incredible shell has been helping it fade into the foliage and escape predators for millennia. Well, maybe not every time. But what can you do, grasshopper, when it's your own land being nibbled away, bit by bit? Who thinks of you, so vulnerable and unassuming? Today, the fragmentation of your natural habitat threatens you towards extinction, like so many other species of the steppe. So, grasshopper, what can we do to save you? First and foremost, we can preserve your habitat and continue to observe you to better understand you. Now look, here and there, everywhere, life is being threatened by the destruction of our natural landscapes, and our planet is far from limitless. You, grasshopper, I, human, ours and all other species belong to this same Earth, so if we can learn to protect you, it may protect us all.
Merci beaucoup.